C'est normal. Si on devait voir ce qui se passe derrière nous, je crois que Dieu, le créateur de notre être, nous aurait équipé d'un œil derrière la tête, histoire de voir ce qui se passe derrière. Mais non, Dieu nous a équipés de deux yeux pour voir devant. Et avec ce rétroviseur qui prend toute la place, comment puis-je avancer vers l'avenir en toute sécurité? Ne le faites pas, mais essayez de conduire, ne serait-ce que déjà avec un œil. Combien c'est inconfortable. Un pilote de char m'avait dit qu'en phase de combat, le char est complètement fermé. Il ne voit la route que par une petite meurtrière de rien du tout. C'est super inconfortable, parce qu'on ne voit pas où on va. Notre champ de vision est restreint. Mais pourquoi on fait pareil avec nos vies? Pourquoi notre passé est tellement présent qu'il nous empêche de nous projeter vers un avenir que nous devons construire? De Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle... » Ah bah oui, vous le connaissez, c'est affiché en même temps. « Les choses anciennes sont passées. » Elles sont passées. Toutes choses sont devenues... Ben alors, si c'est passé, ben laissons le passé au passé. Hein. Et toutes choses sont devenues nouvelles, allez, on y va, c'est nouveau. Philippiens 3, 13 nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant. Ah, j'aime bien ce terme, oubliant. Ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Mais oubliant, il y a une volonté. Il a décidé d'oublier. C'est une volonté. On choisit d'oublier. Donc on choisit de ne pas oublier aussi. Ouais, mais David, ma mémoire, j'ai une très bonne mémoire sur toutes les choses mauvaises. Mais tout le monde a. Hein. Pas de problème, hein, tout le monde a. Hein. Si je vous demande vos plus grands souvenirs des 10, 15, dernières, 20 dernières années, je pense qu'il y a beaucoup plus de mauvaises choses présentes que de bonnes. Or, si on analyse bien les choses, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais on les oublie. C'est pour ça que le psalmiste nous dit de compter les bienfaits de Dieu. Parce qu'on les oublie. Mais du matin jusqu'au soir, si on avait pris l'habitude de mémoriser tout ce que Dieu fait pour nous, on verrait qu'il y a beaucoup plus de bonnes choses qui nous arrivent que de mauvaises. Pourtant, notre mémoire réagit autrement. Je sors du sujet. Mais c'était important de le dire. Notre mémoire nous joue des tours. Le deuxième domaine sur lequel on avait partagé la dernière fois, tu peux afficher s'il te plaît, c'est cette image. Cette image, voilà ces deux personnages qui voient le même objet. C'est le même. Mais il y en a un, il voit un 6 et l'autre, un 9. Qui a raison ? On est d'accord, les deux ont raison. Et vous n'avez pas l'impression que c'est source de conflit, ce truc-là ? J'ai raison, c'est un 9. Non, c'est moi qui ai raison, c'est un 6. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi, c'est le même objet. Lâchez prise quant à notre observation. Il se peut que l'autre ait aussi raison sur la situation que nous sommes en train de voir, de vivre. J'avais évoqué à l'époque Job et sa femme. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Et pourtant, le verset suivant, Job dit, il lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Et on voit un peu plus tard combien Job avait une vision juste de sa femme. Mais sa femme qui vivait la même chose que Job, il ne faut pas l'oublier. On parle de Job et sa femme. Elle n'a pas perdu ses enfants aussi, elle n'a pas perdu ses biens, son confort. Elle n'était peut-être pas atteinte par la maladie, mais elle a vécu les mêmes choses. Et vous qui avez un conjoint souffrant, vous souffrez autant que lui. Hein. Peut-être pas dans votre corps, mais si je pouvais te décharger un petit peu de ta souffrance pendant quelques temps, mais il y a une souffrance pour celui qui est à côté. même si on n'en parle pas. Une souffrance morale, psychologique. Et combien cela est dur. Et on voit combien Job, vous lirez le texte, combien Job connaissait sa femme, parce qu'il l'a restaurée, il l'a défendue. Et il savait que sa femme était en souffrance. Et donc la souffrance fait tenir des propos, parfois, qui dépassent nos pensées. Et comme ça dépasse nos pensées, des fois on dit des bêtises. Des petites, pas forcément des grosses. Oui, on peut dire des grosses aussi. Mais Job n'a pas condamné sa femme. Ils vivaient tous les deux la même situation, mais vous verrez qu'il s'est mis, il a compris sa femme. Ça veut dire qu'il est sorti de sa posture pour se mettre à côté de sa femme. Et de 9 et 6, ils voyaient tous les deux un 6. Ils voyaient le même objet de la même manière. Ah ouais, ça demande du courage pour renoncer à ce que je perçois, pour me mettre là où se situe l'autre et comprendre sa position, comprendre son point de vue, comprendre pourquoi il réagit comme ça. Et d'un seul coup, je change ma position. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés, mais entre nous, déjà. Parce que j'aime l'autre, je ne vais pas lui prêter de mauvaises intentions à mon encontre. Mais peut-être que son point de vue est différent parce qu'il a une sensibilité différente. Et finalement, on éclaire le même objet. Vous savez comment on met en valeur un diamant ? En multipliant le nombre de sources lumineuses. Plus on met de lumière autour, et plus il éclate en beauté. Si on met qu'une seule ampoule, il n'y a qu'une seule source de lumière, et même s'il est beau, il est fade. Mais si on multiplie des sources lumineuses autour du diamant, comme il est taillé, il renvoie la lumière sous différents aspects, et il paraît très joli. Mais c'est le même objet, avec des éclairages différents. Combien dans notre vie nous sommes amenés à avoir des éclairages différents sur la même situation ? Je vous rappelle simplement ce que vous pouvez vivre en famille. Je vous laisse conclure. Dernier domaine que nous avions partagé à ce moment-là, c'était aussi lâcher prise vis-à-vis de ce que nous demande le Seigneur. Tu peux mettre la gravure suivante ? Là, pour ceux qui connaissent un petit peu, alors c'est simpliste, mais on devine bien Pierre. Bon, là, la tempête est un petit peu gentille quand même. Mais on devine Pierre qui veut sortir de la barque et on voit la main de Jésus qui lui dit « Viens ». Vous vous souvenez de cet épisode où Jésus a laissé partir les disciples sur la mer et puis la mer, comme par hasard, elle s'est déchaînée. Et les professionnels de la mer avaient peur. Ils s'accrochaient aux mâts. Voilà, enfin, j'imagine que quand on est dans la détresse, dans une tempête, dans un bateau qui est agité de droite, de gauche, de 1-1, j'imagine volontiers qu'on n'est pas très rassuré, quand bien même on est professionnel. Et là, ils voient quelqu'un s'approcher comme ça sur l'eau en marchant. Ils l'ont pris pour un fantôme. Et oui, les fantômes existaient déjà. Bref, ils l'ont pris pour un fantôme. Et Jésus leur dit de rester en paix, que c'était lui. Alors si c'est toi, ordonne que je vienne à toi, dit Pierre. Mais Pierre, quand est-ce que tu vas te taire ? Franchement, qui aurait pensé faire ça au milieu de nous, là ? Quelqu'un aurait pensé marcher sur l'eau, là ? Moi, non, moi. Mais Pierre, il a dit, mais si c'est toi, allez. Peut-être qu'après, il s'est mordu la langue, parce que pourquoi j'ai encore ouvert la bouche ? Parce que Jésus lui dit, viens. Et là, il n'y a pas un lâcher-prise à faire, là ? Parce que le bateau était la sécurité quand même. Le bateau était cette sécurité pour eux. Et Pierre, il a dû lâcher prise, lâcher le bateau, enjamber. Alors comment il a posé le pied sur l'eau, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il a tenu longtemps la barque ? Est-ce qu'il s'est jeté ? Je ne sais pas, ce n'est pas marqué. Mais toujours est-il qu'il a fait le pas de la foi. Je ne vais pas parler de la suite. Mais ce lâcher prise-là, C'est contre les lois de la nature, mais sur la parole de Jésus. Ce n'est pas pareil. Il y a la parole de Dieu qui dit « Vas-y, fais-le ». Et Dieu, qui est le créateur de toutes choses, nous permet de faire des choses surnaturelles, contre les lois de la physique. C'est impressionnant quand même. Deuxième, et cette image-là, cette expérience-là va amener Pierre à vivre une deuxième expérience sur un lâcher-prise. C'est Pierre qui est en prière et il voit une nappe qui descend avec des animaux impurs. Et l'Éternel lui dit de manger. Il n'est jamais rien rentré d'impur en moi. Mange. La parole de Dieu nous amène parfois à aller au-delà de ce qui est us, habitude, tradition. Et là, ça nous choque. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours fait les choses comme celle-ci. Mais il n'y a rien de mal dans tout cela. Parfois, c'est même toi qui l'as dit. D'ailleurs, la loi a parlé des animaux impurs, il en a parlé. Hein, dans le Deutéronome, Lévitique et compagnie, je vous laisse soin dans ces lectures-là qui sont très intéressantes, même si elles sont fastidieuses. Par trois fois, la nappe lui a été présentée. Mange. Et Pierre était choqué. Je ne peux pas manger ces choses-là. C'est interdit. En fin de compte, au travers de cette vision, Pierre allait casser les habitudes des relations entre les Juifs et les païens. Parce qu'à la fin de cette vision, il y a quelqu'un qui est venu toquer à la porte pour lui dire que Pierre avait un rendez-vous pour parler des choses de Dieu avec un païen. Oh, sacrilège ! Païens, ce sont les impurs. On ne se mélange pas à l'époque. Mais parce que Pierre a lâché prise là aussi sur les us, les habitudes, les coutumes, les traditions, etc., il a fait quoi ? Il a été plus loin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là. Parce que l'évangile a été porté aux païens. Corneille s'est converti, sa maison aussi. Le baptême du Saint-Esprit leur a été accordé, baptisé d'eau. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est aussi parce que Pierre a lâché prise. Amen. Ça va pour le rappel ? Alors, on va aller plus loin. Comment lâcher prise ? Le lâcher prise, on a vu au travers de ces exemples-là, demande du courage, parce que ça nous amène dans une phase d'inconfort. Mais on ne peut pas lâcher prise si on vit dans l'illusion d'une réalité. Ah, compliqué ce que je viens de dire. On imagine une certaine réalité. Non, pour lâcher prise, il nous faut avoir les deux pieds sur terre. Il ne faut pas être des illuminés. On se doit d'être ancré dans la réalité. La base du lâcher prise, c'est la réalité. Sur quoi on va s'appuyer ? Pas sur des paroles en l'air. Lorsque Pierre a lâché prise pour sortir du bateau, il s'appuie sur la parole de Jésus. Lorsqu'il a pu aller voir Corneille, c'est parce que Dieu lui avait dit de manger ses animaux impurs. Le lâcher prise s'ancre dans la réalité. Il faut faire face aux faits tels qu'ils sont et le faire en toute objectivité. On n'est pas des rêveurs. Et pour lâcher prise, ce n'est pas du rêve. On est ancré dans la réalité. Il faut déjà savoir où on en est pour lâcher prise. Le passé, on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure, il est passé. Qui peut le changer ? Avez-vous la possibilité de changer le passé ? Je suis sûr que si on avait cette possibilité-là, il y a plein de choses qu'on ferait. Oh ! Moi, il me suffit d'analyser ma propre vie. Si je pouvais effacer quelques éléments de ma vie, ça m'arrangerait. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le modifier, on ne peut pas l'effacer. Personne. Il fait partie de nous, c'est notre histoire. Mais il y en a, ils veulent renier leur histoire. Ça ne marche pas. On est comme on est. Facile de le dire, parfois difficile à vivre. C'est notre histoire. Avec ses bons comme ses mauvais moments. Sommes-nous d'accord ? Comme je disais tout à l'heure, les bons moments, ils nous paraissent peu nombreux par rapport aux mauvais moments. Analysez bien votre vie, soyez objectifs, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec quelqu'un. « Mais tu ne me parles que des choses mauvaises que tu as vécues. Mais tu n'as pas vécu ça de bien, tu n'as pas vécu ça de bien, tu n'as pas vécu ça de bien. » On a commencé à énumérer les choses. « Ah ouais, j'avais oublié, ah ouais, j'avais oublié, ah ouais, j'avais oublié. » Et on aurait pu continuer longtemps comme ça. Oui, on oublie les bonnes choses. Pourtant, elles sont plus agréables. Pourquoi on s'entoure des mauvaises ? Mais je crois que les bons moments, comme les mauvais moments dans notre passé, peuvent être aussi néfastes les uns que les autres. Aïe. Vous connaissez la nostalgie ? C'est souvent la nostalgie, c'est qu'on a en mémoire des bons moments qu'on ne vit plus aujourd'hui et qu'on regrette et qu'on aimerait revivre, mais qu'on n'a plus la capacité de vivre. Et on est enfermé dans notre passé à cause des bons moments. Ah, quand j'étais jeune, si tu savais tout ce que je pouvais faire. Maintenant, je suis vieux, je suis vieille. Place aux jeunes. Mais qu'est-ce que c'était bien hier, avant-hier, avant de mon temps. Comme c'était super. Aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Ça vous rappelle quelques souvenirs ? Et pourtant, on se souvient des bonnes choses. Ah, de mon temps. Au début de l'Église, mais c'était plein. Il y avait des miracles. Oh, tout ce qu'il y avait. L'Église primitive, tout le monde vendait tout. Ils mettaient tout en commun et personne n'était oublié. Ah si, il y avait des personnes qui étaient oubliées. Mais ils s'en sont rendus compte. Et ils ont changé leur position, leur organisation pour s'occuper des veuves et compagnie, des malades. Mais c'était bien, non ? Et aujourd'hui, on a même des fois du mal à se connaître dans l'Église. Quel changement ! On peut être nostalgique de ce passé-là. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être à cette époque-là ? Ouais. Et quand on entend les Romains qui s'approchent, là, t'es toujours d'accord pour vivre ces moments-là ? Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Lisez Hébreux. Hein. Je ne vais pas rentrer dans certains détails aujourd'hui, mais il y avait une sacrée persécution. Hein. Et puis encore aujourd'hui, de notre époque, là, hein, être chrétien dans certains pays... Ouf. Seigneur, aie pitié d'eux. Et c'est juste une petite parenthèse. Et l'Église, l'Esprit de Dieu, est présent sur le monde. Soyons prêts. Parce que viendra un moment où l'Église ne sera plus là. L'Esprit de Dieu sera plus là. Et le diable qui est aujourd'hui maîtrisé quelque peu parce que l'Église est présente, quand il sera plus là, il va se passer quoi ? Et ceux qui n'auront pas été sauvés à ce moment-là vont se dire « Mince, j'étais pas prêt. Seigneur, au secours. » Donc, il va y avoir une deuxième possibilité. Mais là, quand le diable va se déchaîner, là, je veux pas vivre ces choses-là. Hein. Je ferme la parenthèse. Soyons prêts. Ésaïe 43, 18, 19 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés. » C'est écrit, hein. Je précise, événements. Il n'est pas dit les bons événements ou les mauvais événements. Événements. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. La suite. Voici, je n'ai peut-être pas mis alors. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ah, voilà. Je fais une chose nouvelle. C'est Dieu qui parle. Vous ne la connaîtrez pas, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh. Seigneur, je ne sais pas où je vais. Un chemin dans le désert. Mais Seigneur, tu veux que j'aille dans le désert ? Je n'ai pas envie d'aller dans le désert, moi. Ça va. Qu'il soit chaud ou froid, hein, c'est pareil. Hein. Désert, c'est désert. Que ce soit une banquise ou du sable, c'est du désert. c'est aussi désagréable l'un que l'autre. Quand il fait moins 40 ou plus 50, on n'est pas fait pour. Hein. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur a tout préparé. Mais il nous faut ne plus penser aux événements passés. Dieu nous exhorte à dire, c'est bon, ton rétroviseur qui est comme ça, là, tout petit, tout petit. Mais il en faut un petit peu quand même. Se souvenir d'où on vient, c'est important. La nostalgie nous rappelle de bonnes choses, mais elles sont tellement bonnes que des fois, on est bloqué dans notre quotidien. Je ne suis plus capable. C'était tellement mieux avant, comme je vous l'ai dit. Le passé peut nous faire souffrir aussi. Et ça, pas besoin d'aller plus loin dans ce domaine-là. On a tellement vécu de mauvaises choses les uns les autres, que ce soit dans notre famille, dans notre santé, dans notre travail, dans notre enfance. On a subi des choses parfois. Combien au milieu de nous ont eu des enfances difficiles ? Parce que des parents absents, violents, point de suspension. On a fait aussi des erreurs. Notre passé est rempli de nos erreurs. Et parfois, on continue de payer des conséquences de nos erreurs aujourd'hui. Notre passé. Il faut régler notre passé. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph ? Elle nous a été racontée il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant par Stéphane. Joseph, heureusement qu'il n'avait pas de problème avec son passé. Il était cet enfant un peu particulier dans sa famille. Il a été vendu. On voulait le tuer d'abord. Il a été vendu. Il a été esclave. Mais comme il avait le regard fixé sur son Dieu, il a toujours eu un bon témoignage. Ah, moi, je me mets à la place de Joseph, je crois que je deviens fou. On pète un câble, je crois. Excusez-moi pour cette familiarité, mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais non, lui, là où il est, il rayonne. Et Dieu lui donne de réussir. Et chez Potiphar, il réussit. Génial. Madame Potiphar avait d'autres projets pour lui. Mais lui ne s'est pas laissé avoir. Du coup, prison. Seigneur, j'ai rien fait, mes frères me vendent. Chez Potiphar, j'ai un bon témoignage, tout ce que je fais est réussi et compagnie, les affaires de mon maître vont croissantes et compagnie, et là, il y a Madame Potiphar qui... Et je termine en prison. Vous sentez le vent de la révolte dans le cœur de Joseph ? Vous le sentez ? Ben non. Moi, oui. Je crois que une fois, mes frères, deux fois Potiphar, stop, rideau. Ah, mais il y a eu une troisième fois aussi. Parce que dans prison, là, il réussit et compagnie, et puis il y a des personnes qui viennent et puis qui ont un songe un peu étrange. Il leur donne une explication et ça s'accomplit. Et à celui qui est survivant, il lui dit « Tu te souviendras de moi ?»« Non, j'ai oublié. » »« Oh Seigneur, c'est bon. » Ça fait... Hein ? C'est sérieux tout ça ? Je me souviens de la vision, là, le soleil, les herbes, les compagnies, je me souviens de tout ça. Mais c'est où ? C'est où ? Non, il reste fidèle. Il reste fidèle à la parole qu'il a reçue de Dieu. Si bien que son passé ne pèse pas. Et il continue à être un instrument dans les mains de Dieu. Si bien qu'un autre personnage a aussi deux visions. Et ce personnage, c'est Pharaon. Et là, je me souviens, il y a quelqu'un en prison, là, ça fait un moment. Il savait interpréter les rêves. On le présente à Pharaon, il donne l'explication, et là, contre toute espérance. Il devient le bras droit de Pharaon pour gérer la période des vaches grasses pour anticiper la famine. C'est le prisonnier, hein, qui devient numéro 2 du royaume, hein, quand même. C'est impressionnant, quand même. Joseph avait beaucoup de raisons d'envoyer tout promener, entre guillemets, d'abandonner. Mais son passé ne pesait pas. Et vous savez ce qu'on peut dire aussi ? C'est que ce passé-là lui a permis aussi une réconciliation avec sa famille. S'il était révolté, vous avez vu mes frangins, là, avec tout ce que vous m'avez fait, où j'en suis passé, la prison et compagnie, maintenant stop, ça suffit. Je ne veux plus vous voir. Ah, ils arrivent, là, je les ai reconnus, c'est bon, on va les faire croupir en prison. Excusez-moi pour ce langage, mais c'est vrai, il aurait pu. Hein. La vengeance. J'ai souffert, ça fait des années que je souffre à cause de vous. C'est à cause de vous que tout ça. Non. Non, non. Parce que déjà, au fond de son cœur, il avait déjà pardonné à ses frères. Ah, le pardon. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir tourner une page, il faut que le passé soit réglé. Tant que le passé n'est pas réglé, on ne peut pas tourner une page. C'est ce qui s'est passé parmi les frères de Joseph. Il y avait ce mensonge qui était présent dans leur vie. Parce qu'ils avaient menti à leur père en disant qu'un animal avait dévoré Joseph. Mais tout le monde savait que c'était faux, sauf le père. Et ils voyaient le père dépérir parce qu'il était en chagrin et compagnie, ils n'ont jamais dit la vérité. Vous croyez que la page du passé était facile à tourner ? Non. Il était bien présent. Jusqu'à ce qu'il y ait cette rencontre avec Joseph. Et c'est Joseph qui va apporter cette parole de réconciliation. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui a conduit les choses. Je le dis avec mes mots. Je vous laisserai, c'est dans Genèse 37 et les chapitres qui suivent, je vous laisse découvrir ces textes-là qui sont extraordinaires. Mais lorsque Joseph se réconcilie, enfin, avec sa famille et sa famille avec lui, Joseph était déjà prêt, s'était déjà pardonné parce qu'il avait reconnu la main de Dieu dans tous ces événements-là. Mais sa famille avait besoin de se réconcilier. Et puis j'imagine les frères de Joseph aller voir le père. « Ouais, finalement, papa, comment te dire, on t'a menti. Et nous sommes désolés parce que ça fait des années qu'on t'a menti. Et ce mensonge, c'est que Joseph est vivant. » Imaginez la réunion de famille. Imaginez la réunion de famille, là. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer dans la famille de Joseph, là, mais... Quoi ? Ça suffit, les blagues, c'est bon, les gars. Non, 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 il est vivant. Et en plus, il est bras droit de Pharaon. Ah ! C'est grâce à lui si on a tous ces sacs de victuailles et compagnie. Et il nous demande de venir. Il faut que tout soit réglé avec le passé si on veut aller plus loin. Proverbe 28, 13 nous dit « Ne cache ses fautes, qui cache ses fautes, pardon, ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » S'il y a quelque chose dans ton passé qui n'est pas réglé, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que les fondations, les fondements de ta vie sont instables. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut régler le passé. Tu veux lâcher prise, tu veux progresser, tu veux t'épanouir dans la vie, règle ton passé. Règle ton passé. Pardonne. Oh. Ouais, mais heureusement que Joseph a fait pardonner à ses frères avant même de les rencontrer. Pardonne. Pardonne, c'est pas naturel. Mais combien accorder le pardon nous libère. Le pardon n'est pas pour celui qui a commis l'offense, mais c'est pour celui qui est offensé. On n'a pas besoin d'attendre que l'autre vienne nous demander pardon pour pardonner. Je décide de pardonner. Je sais qu'il y a des personnes qui ne me demanderont jamais pardon. Pourtant, qu'est-ce qu'elles ont été offensantes ? J'aurais pas été chrétien, je pense que, ouais, si je sortirais des baumettes. Ouais, sérieux? Ah oui. Quand on n'est pas chrétien, il y a la nature qui peut être un peu violente quand même, en fonction de comment on nous chatouille, entre guillemets. Est-ce qu'elles en ont conscience? Pas forcément. Mais je sais que ces personnes, je les ai revues. Et je les ai salués sans aucune amertume, parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a dit que j'allais les rencontrer. Je savais que j'allais les rencontrer. Et l'Esprit de Dieu, quand il nous parle, il nous dit, mais tu sais que tu dois les aimer? Ah non. Non, Seigneur, non. Non, eux, c'est pas possible. Et cet esprit n'en reste pas là. Parce qu'il nous rappelle aussi des petits versets dans la parole de Dieu. Mais tu dois même aimer tes ennemis. Ah ouais, mais là non. Seigneur, avec la meilleure des volontés, tu sais que ce n'est pas possible. Mais par contre, je veux obéir. On en parlera à la fin. Alors moi, par moi-même, je ne peux pas. Mais puisque tu le dis, eh ben donne-moi ton amour pour eux. Croyez-moi, dans la fraction de seconde qui suivait cette décision-là, qui joue à arriver? Ces personnes. Et je les ai salués avec une réelle joie. C'est le miracle du pardon. Ces personnes-là, jamais elles viendront me demander pardon pour tout ce qu'elles ont pu dire et faire. Mais je suis libéré. Je suis libéré. Règle ton passé. C'est trop lourd sur tes épaules. On n'est pas fait pour porter le passé. Le passé est passé et Dieu nous amène à nous libérer du passé. Tu l'aimes ton passé? Alors pourquoi tu le gardes? Libère-toi du passé. Si tu es fautif, il y a quelque chose dans ta tête qui tourne, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû dire ça. Va régler, va te réconcilier. Va voir la personne et lui dire, vraiment pardon, j'ai eu cette attitude, j'ai eu ce comportement, je suis vraiment désolé, j'aurais jamais dû être comme ça. Ah, ça demande de l'humilité. Mais ce n'est pas de l'humiliation, hein, c'est de l'humilité. Et reconnaître ses torts. Et quand on reconnaît ses torts, on en sort grandi. Hein. Croyez-moi. Pour pouvoir avancer, il faut avoir un but. Dieu ne nous a pas appelés à être errants et vagabonds. Déambuler comme ça dans la vie, je me promène, je fais ceci, je fais cela. Non, 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 non. Dieu a des buts. Jérémie 29, 11 nous dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu es sans espoir? Tu es dans le désespoir? Regarde là. Vous donner un avenir, de l'espérance. Tant mieux si tu es dans le désespoir. Place-toi dans les bras du Seigneur et tu verras. Si le désespoir ne va pas être changé en espoir, en espérance. Et là, d'un seul coup, l'avenir qui paraissait sombre peut rester encore sombre. Eh oui, faut pas que je mente non plus. L'orage peut durer encore un moment. Mais parce que je place mon espoir en Christ, je sais qu'après l'orage, viendra la calmie. Et parce que j'ai placé ma vie dans les mains du Seigneur, je sais que mon avenir est prévu. Il est prévu. Projet de paix, non de malheur. Alors, mais pourquoi ce malheur? Mais t'inquiète, tout ça, c'est formateur. Hein? Vous imaginez la croissance d'une graine? C'est extraordinaire, une graine. Une graine, il y a tout ce qu'il faut dedans pour qu'elle puisse germer. Et grandir. Mais quand elle est en terre, vous croyez que ça se fait comme ça? Il faut qu'elle se fasse un chemin dans la terre. Hein? Déjà, il faut qu'elle germe. Et le fait de germer, c'est on casse l'enveloppe et compagnie pour qu'on puisse pousser. Et puis, parenthèse, extraordinaire, j'ai jamais vu une plante germer dans le mauvais sens. Hein? Quand même elle est à l'envers, elle sort toujours de la terre. Comment fait-elle ça? Je suis pas assez bon en végétaux pour l'expliquer, mais j'ai jamais vu une tomate pousser dans la terre. Elle sort toujours. Toujours est-il que se frayer un chemin dans la terre, vous avez déjà pris une bêche, vous avez déjà essayé de... Hein, c'est dur, hein. Et pourtant, la plante sort. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pourquoi j'utilise cet exemple? Tout simplement parce que la croissance est souvent douloureuse. Demandez aux ados qui font une poussée de croissance, là, ils prennent 10 cm en quelques mois, si les genoux, ça fait pas mal et compagnie. Projet de paix, non de malheur. Oui, il peut y avoir des moments de souffrance, mais parce qu'on est en train de grandir. On est en train de grandir. Ce n'est pas la même chose. Des fois, on se met dans des difficultés. Okay. Mais là, on est en train de grandir. Éphésiens 2:9 nous dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Voilà l'objectif de notre vie. Nous avons un but, tu as un but, avec tes qualités et tes défauts, avec tes capacités et tes incapacités, avec ta patience et ton impatience, avec ton intelligence et ton manque d'intelligence. Enfin, tout ça, Dieu connaît. Mais s'il connaît qu'il a prévu des choses pour toi, pourquoi ne pas lui faire confiance pour ton avenir? Alors, on a vu le passé, on a vu l'avenir. Maintenant, aujourd'hui, lâchez prise. Pour lâcher prise, il faut avoir réglé son passé. Il faut avoir un but. Et le but, nous l'avons vu, c'est en Christ. Il a tellement de belles choses pour nous. Si je place ma confiance dans les hommes, aïe, aïe, aïe. Quand on écoute nos dirigeants qui un jour disent blanc, l'autre fois disent noir, et puis ils passent par toutes les nuances de gris qui existent entre les deux, c'est difficile de faire confiance dans l'homme. Mais on peut avoir confiance dans certains. Il faut bien choisir ses conseillers quand même. Mais le présent. Je crois que le présent, c'est souvent ce qui pose le plus de problèmes. J'ai juste évoqué l'histoire de Naaman que vous pourrez trouver dans 2 Rois au chapitre 5. Naaman. C'est cet homme, ce soldat gradé, hautement gradé, général, qui atteint de la lèpre. Et forcément, la lèpre nous isole. Hein. Comment peut-il commander des hommes sans être à leur contact? Ça nous isole. Et cet homme, avec une stature, et puis c'est un homme de guerre, donc il a de l'autorité. Il avait une petite esclave, là, une petite servante, qui lui dit, mais moi je connais quelqu'un qui pourrait te guérir. Toi l'esclave? Bon, elle a été un petit peu intelligente et elle est passée par sa femme. On sait que les femmes, ça va attendrir le cœur des hommes, des maris et compagnie. Hein. Charmeuses comme elles sont. Hein. Et donc forcément, Naaman a accepté. Et il s'est fait un schéma mental de sa rencontre avec l'homme de Dieu, selon les protocoles d'usage et les usages de cette époque. On ne se présente pas devant un homme de Dieu, un prophète, un roi, n'importe comment. Ces habitudes se sont perdues. Hein. Les notions de respect aujourd'hui ont bien évolué. Mais à l'époque, il y avait tout un protocole. Et on voit dans la description combien il est chargé de dons, de cadeaux, etc. Toujours est-il que il s'est fait une image, il s'est fait un scénario. Voilà comment les choses vont se passer. Je la fais courte, l'histoire. En fin de compte, il ne rencontre pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu envoie son serviteur et lui dit « Va te plonger cette fois dans le Jourdain. » Et cet homme général, il peut se sentir frustré. Il n'est même pas sorti me voir. Il m'envoie son serviteur. Et puis, dans mon pays, il y a des fleuves qui sont beaucoup plus propres que le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve boueux, c'est connu. Hein. Pour l'avenir de Naaman, pour son avenir, il fallait qu'il règle quelque chose aujourd'hui. Et le quelque chose aujourd'hui, ben là encore, on en revient à cette image du 6 et du 9. Il avait une vision des choses. mais il a fallu qu'il accepte que cette vision soit brisée. Heureusement qu'il avait autour de lui des personnes qu'il aimait et qui lui ont conseillé. Mais si l'homme de Dieu t'avait donné quelque chose de plus difficile à faire, tu l'aurais fait. Alors, je la fais à ma manière. Calme-toi, descends de ton piédestal et fais ce qu'on te dit de faire et tu verras. De 9, il est passé à 6. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, rien. Rien. Même pas encouragé dans ses efforts. On s'attend, oh, c'est bon. Mais persévère, va jusqu'au bout. Seigneur, t'as dit combien de fois ? 7. Pourquoi tu t'attends à quelque chose à 6 ? Ouais, mais il pourrait y avoir une petite amélioration de quelque chose. Non, il t'a dit 7. On s'imagine des choses. Et on croit que Dieu va agir comme nous on pense. Mon cerveau est sûrement très performant par rapport à celui d'une limace, mais par rapport à celui de Dieu, on est d'accord. Donc surtout, Seigneur, je vais faire comme tu dis. Et je te fais confiance. Ah, voilà la clé. C'est que Naaman n'a pas regardé qui parle, ni comment la parole lui est parvenue. La petite servante, le serviteur du prophète, ses serviteurs à lui, mais il a considéré ce qui était dit. Combien de fois nous nous arrêtons à qui parle ? Qui est le messager ? Et parce que j'analyse le messager, je n'écoute pas le message et je passe à côté de ce que Dieu a prévu pour moi. Dites-moi, Dieu n'a-t-il pas utilisé une ânesse ? Pour s'adresser à un homme. Une ânesse. Seigneur, permets simplement que mes oreilles soient ouvertes avant que tu utilises une ânesse pour me parler parce que... Ouais, mais en attendant... C'est ça si je m'attache au messager. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce qui est dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. N'endurcissez pas votre cœur. Et on trouve un chapitre après, mais le même verset, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'est pas dit, si vous entendez sa voix au travers du prophète, au travers du pasteur, au travers du frère de ceci, cela, non, non. Entendez sa voix, même au fond de ton cœur. Même quand tu lis la parole de Dieu, ouais, mais moi, je suis rien et compagnie. Non, non, Dieu te parle aussi au travers de sa parole. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, pour conclure, le lâcher-prise, le principe est simple, mais l'application, combien difficile ? Parce qu'elle demande à renoncer. Vous vous souvenez des définitions que j'ai données ? Céder. On y est, hein ? Naaman, il a cédé. Hein ? Capituler. Abandonner, renoncer. Renoncer à tout ce qu'on croit. Il faut que notre passé soit réglé. Il nous faut pardonner. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur nous condamne, c'est qu'on a quelque chose à régler avec notre passé. Donc règle ça vite, 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 vite. Comme ça, on a de l'assurance devant Dieu. Et si on a de l'assurance devant Dieu, on a de l'assurance devant les hommes. Ce n'est pas de l'orgueil, hein. Et pour avoir un avenir, il faut placer notre confiance dans le Seigneur. On ne peut pas lâcher prise si on n'est pas en confiance. Naaman a pu lâcher prise parce qu'il avait confiance dans la parole qui lui a été annoncée. Joseph, il a pu lâcher prise et vivre sa vie parce qu'il avait confiance dans la parole de Dieu. Pierre a pu sortir de la barque et aller chez Corneille parce qu'il avait confiance dans la parole de Dieu. On ne peut pas lâcher prise si on n'a pas confiance. Il faut qu'on soit sûr. Sois confiant dans la parole de Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les proverbes. Hein. C'est la parole de Dieu. Hein. Vous pouvez mettre en doute ce que je dis, mais la parole de Dieu est claire. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et si je me confie à l'Éternel, alors j'obéis à sa parole. Naaman a obéi à sa parole. Pierre a obéi. Ils ont obéi. Et en obéissant, on fait confiance à Dieu. Et la confiance à Dieu nous amène à l'obéissance. Tout ça, c'est lié. Et parce que je vais obéir, je vais accomplir quoi? Les œuvres préparées d'avance. Et en accomplissant les œuvres préparées d'avance, je vais être l'homme, la femme la plus heureuse de la terre. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est Samuel qui le disait à Saül. Alors c'est simple, hein? Règle ton passé. Place ta confiance dans le Seigneur. Renonce à tes constructions. Fais-lui pleinement confiance. Obéis à sa voix. Et c'est ça. Et si tu appliques ces trois principes-là dans ta vie, c'est le lâcher prise. Et tu seras un instrument de choix entre les mains de Dieu. Non seulement pour toi, parce qu'on a besoin aussi d'être en bonne santé, mais pour ceux qui sont autour de toi. Le frère disait tout à l'heure pendant les annonces que c'est notre responsabilité de porter la parole. Tu seras un instrument de choix entre les mains de Dieu, pour les tiens, pour ceux qui te sont chers. Amen. Alors lâcher prise, c'est possible? Est-ce que vous avez compris la méthode? On fait le ménage. Et on fait confiance à Dieu. Et on lui obéit. Amen. On termine par la prière. Tiens, Vincent, tu pourrais prier, s'il te plaît.